Bonsoir, les activités sont restées paralysées hier à Beni, dans le Nord Kivu. Le motif, de nombreux habitants sont descendus dans la rue pour protester contre la tuerie de 10 personnes mardi dernier au quartier Bouilikasinga, des tueries attribuées à des présumés ADF. Comment analyser ces nouvelles tueries à Beni? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous serons avec Jean-Edmond Nyonyi Bwanakawa, maire de la ville de Beni. Jean-Edmond Nyonyi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Paul Mouindo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous dans ce studio de Kinshasa. Vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique RCD-KML, élu du territoire de Beni, au Nord Kivu. Vous êtes aussi président de la commission Dialogue, Paix et Démocratie au sein de l'Union des jeunes parlementaires africains. Et enfin, Timothée Chaombo Chusha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Timothée Chaombo, bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La sécurité ne s'améliore décidément pas à Beni dans la province du Nord Kivu. Il y a eu 10 nouveaux assassinats mardi au quartier Bouilikasinga et la population est descendue dans la rue pour dénoncer ces nouvelles tueries qu'elle attribue à des présumés ADF. Un élu de Beni parle même de près de 90 personnes tuées dans cette partie de la République depuis le début de cette année 2018. Ce jeudi, les activités sont certes revenues à la normale, mais Alain Irung et Martial Papi Mukeba nous permettent dans un entretien, de refaire le film des incidents de mardi et mercredi. On les écoute.
Bonsoir Martial Papi Mukeba, vous êtes l'un de nos correspondants à Beni. Comment s'était déroulée cette attaque?
L'attaque était intervenue aux environs de 19h30 heure locale. Selon les sources militaires, un groupe de présumés ADF avait d'abord pris en otage 3 civils dans leur champ situé d'Amayangos, des civils qu'ils avaient ensuite utilisés comme guides en évitant les positions des FRDC pour atteindre finalement Kasinga Bouili. C'est en arrivant dans ces quartiers périphériques de la ville de Beni que ces présumés ADF, qui avaient visiblement l'intention de progresser vers les centres de la ville de Beni, seront stoppés par une position des FRDC. D'après la même source, il va s'en suivre des violents affrontements d'environ une demi-heure au cours desquels 10 civils, dont les 3 otages, seront tués et un enfant égorgé par ces présumés ADF.
Alors comment la population a-t-elle manifesté son mécontentement?
Mercredi dans la matinée, les habitants du quartier Bouili étaient descendus dans la rue pour protester contre ces nouvelles tueries des civils à Beni. Les motards de la ville avaient également manifesté leur mécontentement en mettant des barricades sur les boulevards Nyamoussi, l'artère principale de la ville de Beni. Et cela pour protester également contre la mort de l'un d'entre eux tué au cours de l'attaque de Bouili.
Pour terminer, Martial Papi Mukeba, après cette attaque, quelle a été la réaction des FRDC?
Il faut préciser que depuis le 13 janvier dernier, les FRDC ont pris le contrôle des bastions importants des présumés ADF. Les tueries de Bouili sont intervenues pendant que le général Marcel Mbangu, commandant du secteur opérationnel Grand Nord, venait d'ordonner une offensive de l'armée dans la forêt de Mayangos, à plus ou moins 14 kilomètres à l'est de la ville de Beni. Et selon les porte-parole des FRDC à Beni, c'est à partir de cette forêt interdite d'accès aux civils est considéré comme l'un des bastions de planification des attaques des présumés ADF que 3 civils ont été kidnappés avant d'être contrés par les assaillants de les conduire jusqu'à Bouili.
Merci Martial Papi Mukeba et bonne soirée à Beni.
Merci à vous Alain Irung.
Alain Irung et Martial Papi Mukeba à l'instant. Merci à vous deux. Depuis le Nord Kivu, Jean-Edmond Nyonyi Bwanakawa, maire de la ville de Beni, province du Nord Kivu. Cette série de questions, la série de questions que je vais à l'instant vous poser, tout le monde se la pose. Que se passe-t-il finalement à Beni? Pourquoi toujours des morts dans cette partie du pays, des tueries, des assassinats, des massacres malgré des effectifs importants de sécurité, MONUSCO et armée et régulière compris? Qui sont les auteurs et pourquoi tout cela ne s'arrête-t-il pas? Bref, pourquoi ce cycle devenu inarrêtable d'insécurité chez vous?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. N'importe que j'amène un petit rectificatif, c'est qu'il n'y a pas eu 10 morts, mais plutôt il y a eu 11 morts, à savoir 7 hommes, 3 femmes et un enfant. Parmi les 3 femmes, il y a eu une femme pygmée. Donc ça fait un total de 11 morts. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi ces morts à répétition au niveau de la ville de Beni? Et il faudra que je répète, parce que autant de fois je suis passé comme invité au niveau de la radio au Capi, et je vous ai toujours dit que les opérations, disons les attaques AIDF, ne datent pas seulement de 2014, mais il faudra que je précise et que je répète à l'attention de tous les auditeurs que les attaques AIDF ou bien les rebelles AIDF sont au niveau du territoire de Beni depuis 1986. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2018. Il se fait qu'il y a 32 ans depuis que les AIDF habitent la ville et le territoire de Beni. Et autant de fois, il y a des opérations militaires qui ont été organisées depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui pour éradiquer le phénomène AIDF. Et il est triste de constater qu'aucune des opérations militaires n'est parvenue à atteindre cet objectif. Et depuis le 13 octobre et le 13 janvier 2018, il y a de nouvelles opérations dans le cadre des opérations Sokola 1 Sud qui ont été amorcées avec un effectif beaucoup plus important, un armement beaucoup plus important pour permettre que cette fois-là, on vienne à bout de ces éléments AIDF. Mais il faudra que je puisse préciser pour ceux-là qui connaissent la ville et le territoire de Beni. Et ce sont deux contrées qui sont entourées par le parc national de Virunga. Et c'est le parc national de Virunga qui est le véritable réservoir des AIDF. Et s'il faut revenir à mes explications anciennes, je vous avais dit une fois que les AIDF habitaient le massif de Rwenzori. Et aujourd'hui, ils ont quitté le massif de Rwenzori. Ils sont dans la plaine de là. La Semuliki étant un des affluents importants du fleuve Nil. Maintenant, pourquoi ces morts à répétition et exactement pourquoi les tueries que nous avons enregistrées avant-hier au niveau de Bouili? Il faudra que je précise que le jeudi passé, aujourd'hui nous sommes le 29, quelque chose comme ça. Et, le jeudi passé, il y a eu bombardement des positions AIDF par une artillerie lourde des FRDC. Et il se fait que les AIDF ont véritablement été touchés par ces bombardements qui ont été ciblés. Parce que je venais de vous dire que depuis le 13 janvier 2018, il y a de nouvelles opérations dans le cadre des opérations Sokola qui ont été débutées avec à la tête le général Marcel Mbangu et avec pour objectif principal d'éradiquer ce phénomène. Et alors, les tueries que nous avons enregistrées au niveau de Bel Air sont à mettre dans le cadre des représailles. Les AIDF, au lieu qu'ils s'en prennent aux FRDC qui sont allés bombarder leur position, ils préfèrent s'en prendre aux populations civiles. Et pour une bonne précision, je veux dire à ceux-là qui ne connaissent pas la ville de Beni, ces tueries, ces tueries ont été exécutées exactement à quelques kilomètres de là où partaient les bombardements contre les positions des IDF. Mais vous savez, nous sommes au niveau de la radio, toutes les stratégies militaires ne sont pas à exposer au niveau de la radio. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce que nous avons connu avant-hier, c'est que il faut mettre ces tueries dans le cadre des représailles. Au lieu que les IDF s'en prennent au FRDC, ils préfèrent plutôt s'en prendre aux populations civiles innocentes. Tout ce que M. Papi Moukeba a dit est vraiment vrai, il n'y a rien que je puisse ajouter par rapport à ça.
Jaïd Mounioni, nous allons partager la parole autour de cette table, mais juste une réponse directe de votre part à cette question. Vous expliquez la présence des IDF comme datant depuis 32 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire que à chaque fois ça a toujours été leur action, leurs tueries ont toujours été des représailles aux populations?
Monsieur le journaliste, je crois que chaque fois que nous sommes de passage au niveau de votre radio, il faudra aussi que de temps à autre, vous reteniez ce que nous disons. Dans le passage antérieur, nous avons toujours dit que les IDF changent de stratégie. Si hier, ils étaient dans le massif de Rwenzori, aujourd'hui, ils se retrouvent dans la vallée de la Semouriki. Il vous souviendra que j'ai dit qu'ils sont passés par le phénomène de kidnapping, par le phénomène enlèvement des personnes, et depuis 2014, ils ont opté comme méthode d'action s'en prendre à la population civile par les tueries.
Alors, Paul Mohindo, vous venez d'écouter les explications de Monsieur le maire de la ville de Beni. Qu'est-ce que vous en pensez? Il donne comme explication des récentes attaques, les représailles aux populations après avoir essuyé des défaites au niveau de l'armée régulière.
Merci bien. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées. Et je voudrais, dans le même angle, dire, contrairement à ce que le maire est en train d'avouer, que la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, elle est une situation grave et la situation est en train de s'empirer. Je voudrais d'abord rappeler, c'est qu'à ce jour, nous sommes à 3 ans et 6 mois depuis octobre 2014. Ça veut dire depuis que les tueries avaient commencé. Nous dénombrons ces jours plus de 1700 personnes égorgées, près de 940 orphelins. Nous sommes à plus de 310 cas de folie. Et nous avons mené ces études et nous sommes à plus de 47 localités abandonnées. Nous sommes à plus de 290 maisons brûlées. Aucun accès aux champs d'une grande partie dans Mayangos et de la partie entre Oicha et Ringeti. Donc, on comprend que la situation est en train de s'empirer. Et c'est d'ailleurs ce tableau sombre qui a poussé hier les populations de Beni à aller dans la rue, puisque la situation ne fait que se détériorer. Et la poursuite des tueries en ville comme à territoire de Beni, c'est par contre une preuve d'échec de toutes les stratégies appliquées jusqu'à ce jour. On ne peut pas dire que, bon, c'est une représaille puisqu'on a attaqué leur position phare, et je voudrais d'ailleurs dire que ce sont des phrases auxquelles nous sommes habitués. On vous dira que l'ennemi a été totalement attaqué, il a été envoyé jusque dans son dernier retranchement. On vous dira par exemple que non, la situation a été maîtrisée. On vous dira que la puissance de feu de FARDC a fait que nous puissions que l'ennemi puisse quitter l'intérieur pour n'est-ce pas venir attaquer la population. Mais je tiens à vous dire que tel n'est pas le cas, puisque si nous prenons uniquement les données, parce qu'il faut faire parler les données, on est passé à plus de 5 opérations. On avait l'opération Sokola 1 avec le feu général Bauma, on avait l'opération Sokola 1 avec le général Mundos, là c'était après la mort du feu général Bauma, qui je rappelle, avait ouvert grâce à cette opération l'axe Beni Mbau Kamango, et il avait libéré un grand nombre centre d'otages. Donc après la mort de Bahouma, nous avions le général Mundos. Et après le général Mundos, il y avait beaucoup de population qui ne voulait pas qu'il soit là-bas. Il avait été changé par le général Mbangu Mashita. Après lui, après Mbangu Mashita, on avait eu à subdiviser la zone opérationnelle à zone sud 1 et à zone nord. Donc zone sud et zone nord. Et donc nous avions le général Fals et le général Mbangu qui est là. Et maintenant, aujourd'hui, on a réunifié la zone. C'est que depuis le 13 janvier, nous avons une zone qui est unifiée. Maintenant, quel est le résultat aujourd'hui? Puisque avant le lancement de ces actuelles opérations, avant donc le 13 janvier, l'axe Beni Kasindi était quand même accessible. L'axe Mbau Kamango était accessible. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? L'axe Mbau Kamango reste bloqué. L'axe Beni Kasindi vit la sécurité d'une manière permanente. Nous avons dénombré, depuis janvier à ce jour avec le tué d'hier, nous sommes à 97 personnes égorgées. Voyez, et nous sommes, depuis janvier à ce jour, nous sommes à 57 cas de folie. Ça signifie quoi, monsieur le journaliste, ainsi que tous les auditeurs? La situation de Beni devient de plus en plus compliquée. Pas puisque on est en train d'attaquer l'ennemi, je dois aussi rappeler qu'on nous avait dit à un certain moment qu'il ne restait qu'un petit groupe de 5 personnes qu'on pouvait ne fût-ce que capturer. Donc, quel est cet ennemi mystérieux qui, aujourd'hui, on doit le dire, il attaque 3 à 4 positions d'une manière simultanée. Il peut au même moment attaquer. Il a attaqué hier, disons avant-hier, il était vers Bouili. Il avait, après là, il était au niveau de Kichangal, sur l'axe Beni Kasindi. Et après, nous avions appris notre attaque vers Mbaou. Ça veut dire, l'ennemi aujourd'hui, lorsque nous sommes sur terrain, la capacité de l'ennemi n'est pas en train de diminuer, mais plutôt elle s'accroît. La paix, c'est quoi? Parce qu'on doit éviter de penser que la paix est une notion céleste. La paix, c'est que la population doit avoir la possibilité d'accéder aux champs, la population doit avoir la possibilité de visiter l'autre sans aucun problème, on doit avoir la liberté de circulation, c'est ça la paix. Mais lorsqu'on nous dit qu'on a des opérations qui sont menées et qu'on n'a pas accès à nos champs et que les populations sont violées, parce que même dans ce qui s'est passé avant-hier, il y a eu des viols, on ne peut pas nous dire qu'il y a des avancées, il y a plus de recul et on doit passer à une évaluation réelle de cette opération et se poser des vraies questions, pas amadouer tout ce qui s'est fait au niveau de Beni qui ne fait qu'endeuiller la population.
Alors Paul Mouindo, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique RCD-KML, élu du territoire de Beni au Nord Kivu, mais également président de la commission Dialogue Paix et Démocratie au sein de l'Union des jeunes parlementaires africains. Timothée Chaombo Choucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Vous avez écouté les deux positions. Elles semblent être opposées. D'un côté, le maire qui explique généralement ou pour les attaques les plus récentes, les ADF ont réagi. On pris les populations en représailles aux défaites déjà subies. Et tout à l'heure, vous venez d'écouter le député qui explique que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même au moins 5 opérations depuis quelques années dans la traque de ces groupes armés nuisibles.
Allô?
Timothée Chaombo Choucha, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute. J'ai bien suivi la question, si je peux répondre déjà.
Oui, quelle est votre analyse déjà de la situation, mais aussi de ces positions précédentes exprimées par vos deux co-débatteurs?
Oui, la situation est confuse, mais claire à comprendre, parce que ce sont des opérations militaires qui ont un certain nombre de réglementations au niveau de l'opérationnalisation, j'aurais dit. Mais rappelez-vous de la dernière fois lorsque nous étions invités ici sur ce studio de Radio Capi pour parler de la question de Beni. Et plus tard, lorsqu'il fallait analyser sur la situation de Djougou en Ituri et un petit peu dans le Kasaï, nous avons vu qu'il y a une opérationnalisation qui est uniforme par ces gens. Revenons à la question de Beni. J'ai suivi le maire tout à l'heure qui parle des années 1986, les ADF finalement, etc. Mais depuis 20 ans déjà, les ADF Nalu, pour parler de ces deux groupes, ne représentaient plus un danger pour l'Ouganda. Les Nalu ont intégré les institutions de l'Ouganda et les IDF sont restés. Mais depuis 20 ans, les IDF ne représentent plus une certaine menace pour la République d'Ouganda. Et donc, ils sont dans des forêts. Et lorsque vous prenez toutes les conférences de presse du ministre de la Communication, mais aussi d'autres communications de responsables des officiers de l'armée, il y a une nette contradiction. Lorsqu'on a attaqué le 14 casque bleu de Simeliki, on a parlé d'un groupe d'hommes IDF qui étaient lourdement armés. Mais lorsque vous suiviez l'autre fois le ministre de la Communication, il parlait d'un groupe résiduel qu'on pouvait même capturer, le député venait de le souligner. Il s'agit en fait de quoi ? Beni est une ville d'environ 100 000 habitants. Nous avons aujourd'hui environ 20 000 militaires à Beni. Ça veut dire que pour 16 personnes, on pourra trouver un militaire. Et le centre de commandement est unifié. Alors, ces gens arrivent, j'ai interrogé la population, ces gens arrivent depuis que le général Marcel Mbangu et le gouvernement donc, vont annoncer les opérations. Mais ces gens arrivent à opérer parfois à la journée. Ils arrivent à 17h. Pour les dernières opérations, ils sont restés environ 3 ou 4 heures de temps. La question qui se pose, qui sont réellement ces gens ? On ne capture personne. Et lorsqu'on voit les victimes, ce sont des civils. La question qui se pose, c'est que les IDF ne se trouvent-ils pas au milieu des FRDC ? Parce que lorsque vous interrogez la population, ils vous disent, les gens vous disent, non, ce sont des gens qui parlent des langues qui ne sont pas congolaises. Ça pose énormément de problèmes lorsqu'on sait que cette zone-là est une zone autrefois abritée par le RCD, autrefois abritée par le CNDP et autrefois abritée par le M23. Et le général Marcel Mbangu lui-même a échappé deux ou trois ou quatre fois à des attaques d'un commandement parallèle. Il faut souligner qu'il y a un sérieux problème d'un commandement parallèle. Et lorsque nous entrons en contact avec les militaires, et ça c'est très important à souligner, lorsque nous entrons en contact avec les soldats, les militaires qui sont en opération à Beni, ils vous disent non, on n'entre pas dans, ils parlent en lingala, ils vous disent on ne peut pas, nous avons la volonté de combattre, mais nous ne pouvons pas entrer dans cette affaire-là parce que c'est trop compliqué. Ceux qui sont là, ça veut dire ceux qui sont, entre guillemets, les IDF, sont nos propres collègues, qui sont des autres unités venues de brassage, CNDP, RCD, CNDP, M23. Donc il se pose un sérieux problème de l'identification. C'est pourquoi je vous avais posé la question l'autre fois, je crois avec un de vos collègues, est-ce que nous allons rester dans les présumés ADF ? La réponse doit venir de Kinshasa. Ce n'est pas aux Nations Unies, ce n'est pas au maire de Beni qui donne la version officielle. C'est l'officiel, il ne peut que s'exprimer de cette façon. La réponse se trouve au niveau du centre du commandement suprême des forces armées à Kinshasa. Ce sera la vérité.
Oui, vous aviez la parole. Vous continuez ou sinon nous avions quelques précisions à vous donner aussi. Mais qu'est-ce qui à vous demander plutôt, qu'est-ce qui peut justifier justement cette espèce de camouflage des faits réels sur cette situation? Pensez-vous que le gouvernement aurait des faits à cacher, des raisons de ne pas clairement dire ce qui se passe et ce qui devrait être fait pour arrêter cette situation?
Mais parce qu'en réalité, deux réponses que je donnerai, deux ou trois réponses. La première réponse, c'est que pour quelles raisons, je ne vous pose pas de questions, mais j'analyse avec vous par la méthode de questionnement aussi. Je me pose la question, pour quelles raisons les meilleurs de nos officiers tombent au Nord Kivu à Beni? Pour quelles raisons les meilleurs officiers qui excellent dans les attaques contre ces groupes sont relevés de leurs fonctions? Pour quelles raisons on a sorti le général Olenga de là, parce que lorsqu'il il a conduit les opérations, il a mis en déroute quand même le M23 avec le général Mamadou, le colonel Mamadou Ndala. Deuxième élément que nous puissions soupçonner, c'est que on voudrait donner la piste IDF comme si c'était des islamistes. Il n'y a plus de IDF au Nord Kivu et dans la Beni. Et donc on voudrait soudoyer un petit peu, convaincre l'administration américaine afin que non seulement que l'on bénéficie des fonds liés à la lutte contre le terrorisme, mais aussi que l'on justifie une situation qui, du reste, est une situation politique. Parce qu'une autre façon de faire la politique, c'est la guerre. Et troisième élément, il ne faut pas oublier que dans cette région, c'est du bois, c'est du café, c'est de l'or, mais surtout du pétrole, dans le bloc 3. Et que vous savez que de l'autre côté de la frontière, c'est l'Ouganda qui est très avancé dans le projet du pétrole et que l'exploitation de ce pétrole du Graben, mais attend de l'autre côté que les autorités congolaises puissent évacuer cette population dans ces carrés afin qu'ils puissent logiquement commencer à exploiter ce pétrole parce qu'il faut minimiser les transports entre l'Ouganda et le Congo vers le lac, je veux dire l'océan Indien. Donc, il y a là un génocide sur une population autochtone. Et curieusement, on est en train de voir dans Béni, là, le territoire Nandé et les autres, mais on voit une autre population qui arrive. Et cette population parlait curieusement la même langue que les brigades, les unités qui viennent du CNDP, du M23, du RCD, bref, une population qui parle kinyarwanda. C'est une coïncidence qu'il faut soulever. Nous ne sommes pas du tout contre l'arrivée sur nos sols des compatriotes africains qui veulent s'installer dans notre sol, mais ça doit se faire dans les règles de l'art, et dans le cas d'espèce, il s'agit de l'assassinat, je dis de massacres massifs afin d'importer d'autres populations.
Timothée Tshaombo Soussia, vous aurez la parole vous aussi tout à l'heure. Nous préparons cette émission aussi avec la participation de nos auditeurs. Jean-Edmond Nyoni Bwanakawa, nous vous permettons de pouvoir écouter les questions posées par nos auditeurs. Et pour vous particulièrement, nous vous présentons ce commentaire d'un de nos auditeurs de Lubumbashi.
Chouk Mouigiwa à Lubumbashi. Cette récidive des ADF à Beni démontre la faiblesse et l'inefficacité des actions militaires dans cette partie de la République. Si notre armée était bien organisée et bien déterminée à en finir avec ces rebelles, je pense que même une attaque par surprise ne peut plus faire autant de morts, car tout serait mis en place pour contenir toute action nuisible. Cette situation démontre également l'échec de la MONUSCO dans sa mission de protéger les populations civiles. Parce que cette zone étant névralgique, la MONUSCO, tout comme le gouvernement, devra y concentrer toutes leurs attentions en établissant des stratégies communes pour démanteler toutes les bases des ADF. Parce que s'ils sont parvenus à mettre en échec le M23, pourquoi les ADF Nalou récidivent encore?
Alors, monsieur le maire de Beni, dans la province du Nord Kivu, vous avez tout à l'heure entendu les questionnements aussi bien de l'honorable Mouindo, mais aussi de Timothée Tshaombo Soussia, qui se pose des questions sur le pourquoi de toutes ces choses. Et notre auditeur vient de mettre aussi le doigt sur, selon lui, il pense que c'est particulièrement un échec aussi bien de l'armée que de la MONUSCO.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que je n'en vienne à la question qui vient de m'être posée par l'auditeur, je veux d'abord réagir sur les déclarations de mes co-débatteurs. En commençant par les déclarations de l'expert, je vais lui dire que Beni ne compte pas 100 000 habitants, mais plutôt Beni compte 700 000 habitants. Beni, c'est une grande ville. Elle compte 700 000 habitants. Je partage avec lui l'idée selon laquelle les EIDF ne représentent plus un danger pour l'Ouganda. Et c'est ça que nous nous sommes toujours posés comme question. Si les EIDF se définissent comme étant les rebelles ougandais basés au Congo et qui n'ont jamais attaqué un seul centimètre carré du territoire ougandais, mais plutôt toutes leurs affres sont orientées vers la population congolaise et le territoire congolais. En quoi est-ce qu'ils peuvent être appelés comme étant des rebelles ougandais basés au Congo? Et ma réponse a toujours été, c'est que les EIDF, c'est une nébuleuse. Nous devons faire très attention avec cette nébuleuse. Aujourd'hui, c'est le Congo. Demain, ça peut être toute l'Afrique centrale ou bien la région des Grands Lacs qui va être en feu et à sang.
Oui, monsieur.
Une autre réaction, c'est que j'y vais. Là, une autre réaction, je ne donne pas la version officielle des faits, mais je suis en train de donner la version réelle des faits. Ça, c'est en ce qui concerne l'expert. Pour revenir aux déclarations qui ont été faites par l'honorable député Mouindo, je veux préciser que l'honorable Mouindo, il est originaire du secteur du Rwenzori, et c'est là que les EIDF tirent leurs origines. Ça me surprend que le bilan qu'il tire ne date que de 2014, quand il parle de personnes qui ont été tuées, des maisons qui ont été incendiées. Mais lui, en tant qu'originaire, comme moi, du secteur du Rwenzori, il devrait connaître le véritable bilan des EIDF depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui.
Mais il a donné quand même le bilan de deux périodes importantes. Il y a de 4 ans, mais aussi des 3 premiers mois de l'année 2018. Allez-y.
S'il vous plaît.
Allez-y, monsieur le maire.
Le secteur du Rwenzori connaît un retard aujourd'hui par rapport aux autres collectivités. C'est en grande partie causé par les actions des EIDF. Si on doit compter autant de personnes qui ont été déportées et tuées par les EIDF, l'honorable Mouindo qui est là, il sait que lui connaît le bilan réel autant que moi aussi je connais. Et aujourd'hui, les EIDF ont quitté le secteur du Rwenzori. Ils se retrouvent, comme j'ai eu à le dire tantôt, dans la vallée de la Semouliki. Et donc, ils se retrouvent dans le secteur de Beni Mbau et dans la collectivité chefferie de Watalinga.
Jean-Edmond Nyonyi Bonakawa, vous avez déjà donné ces informations. Est-ce qu'on peut avancer dans le débat? Mais expliquez quand même à l'opinion pourquoi 5 personnes qui restaient et qu'on devait capturer avec les 5 doigts de la main se sont régénérées pour constituer un danger désormais aujourd'hui encore.
Allô?
Oui, la question c'est comment, selon vous, les quelques groupes résiduels, plutôt les personnes résiduelles de l'ancien groupe des ADF, s'est régénéré pour constituer un danger aujourd'hui. Vous répondrez tout à l'heure à votre dernier mot de la fin à cette question, mais nous faisons écouter aussi au député Paul Mouindo, la réaction qui lui a été adressée.
Province d'Iro où elle est. Nous sommes vraiment trop fatigués. Je donne raison aux gens qui disent que la RDC est devenue un abattoir des êtres humains car il ne passe un seul jour pour parler des cas de tuerie ou de massacre. Chose grave, 3 mois pour l'année 2018, nous sommes au-delà de plus de 87 personnes tuées, rien que dans le grand nombre. À mon avis, inutile de côté maintenant sur l'État congolais et la communauté internationale, car ils ont montré leur inefficacité à sécuriser la population et leur bien malgré le déploiement de nos militaires. Pour moi, la démission du ministre de la Défense et l'autoprise à charge de la population pour sa sécurité est l'unique solution.
Monsieur le député, votre réaction?
Merci bien pour cet auditeur qui a totalement raison, mais je voudrais d'abord revenir sur ce que le maire a dit. Il faudra d'abord comprendre effectivement que les phénomènes ADEF, tels que lui le qualifie, existent, ou les ADEF sont là depuis 1986. Mais je dois dire au maire que nous ne sommes pas 1986 à l'époque de Mobutu. Moi, par exemple, j'ai été élu en 2011. Ça veut dire, si je parle, je dois parler de ce que j'ai vu. Et le maire devait aussi opposer le bilan contraire. Mais qu'est-ce que nous voyons? Parce qu'il faut être réaliste dans ce qui se passe. Il ne faut pas chercher à justifier les échecs d'aujourd'hui par rapport à une politique de Mobutu. Non! Mobutu était déjà, n'existait plus. Et aujourd'hui, nous avons des responsables, nous avons des autorités. Nous avons un gouvernement qui est comptable des actes qui se passent au niveau de Beni.
Alors, John Odian de Bukavu, peut-être va dans votre sens, demande carrément une démission du gouvernement et des responsables concernés.
Effectivement, dans ce cadre-là, il est important, et je remercie d'ailleurs l'expert Timothée, et j'approuve vraiment toutes ces analyses et tout ce qu'il a à dire. Il est important de dire aujourd'hui que effectivement, au niveau des Beni, le présumé, ce qu'on appelle, celui qu'on qualifie ADEF, est un ennemi mystérieux. Et je n'ai jamais été totalement convaincu, et je l'ai dit ouvertement département, l'ADF n'est pas le seul ennemi qui attaque les populations de Béni. On doit être clair et on doit être juste. Il n'est pas le seul ennemi.
Quel ennemi encore?
Nous avons d'autres personnes qui parlent d'autres langues mystérieuses. Et d'ailleurs, nous, on pensait que le procès qui avait été organisé à Béni devait aboutir à cela. Malheureusement,
cet autre ennemi serait qui?
Ce n'était qu'un théâtre.
Et arrivé là comment?
Voilà. Comment ça s'est passé? Et nous assistons à un mélange de plusieurs hommes. Nous avons certains éléments de Fardessi qui sont dans ce qui se passe. Nous avons certaines personnes originaires de d'autres coins, des pays étrangers, notamment du Rwanda et de l'Ouganda, qui sont là. Et nous devons avoir le courage de les dire. Mais à cela, il y a la faiblesse de Fardessi davantage qui fait que la situation puisse s'avenimer. Puisque, je vais vous poser une question. D'ailleurs, l'expert l'a dit. Je vais donner simplement trois cas. Pourquoi, si réellement il y a une volonté de terminer cette guerre, pourquoi lorsque nous avions des hiboux à l'époque qui savaient travailler, qui savaient faire la guerre la nuit, à un moment, ces hiboux étaient déplacés de Beni jusqu'ici. Ils ne sont jamais revenus. Il n'y a pas longtemps, si nous rappelons du fait général Baouma, qui avait l'objectif de terminer la guerre, mais tué, parlons de Mamadou. Mais même, il n'y a pas longtemps, c'est au cours de cette année, on a eu à déplacer des militaires qui, d'après beaucoup de témoignages de population, se comportaient bien sur le terrain. Ils ont été rappelés. D'autres ont été mis simplement dans des études ou renvoyés dans des cas pour aller faire les études. Alors, est-ce que réellement il y a une volonté de terminer cette guerre?
Une question importante, Paul Moindo, mais est-ce que selon vous, selon votre analyse, y a-t-il à quelque niveau que ce soit la responsabilité des élus? Parce que un de nos auditeurs, Ignace Ndala de Kolwezi, semble responsabiliser aussi les élus. Je cite un morceau de son commentaire. Il dit: il faut de la vigilance accrue chez les citoyens. Et il dit: enfin, je ne vois pas l'action des députés nationaux face à cette situation. Très rapidement, une réponse par rapport à ça.
Très rapidement, je vais juste rappeler des événements. En 2014, nous avions interpellé le ministre de la Défense et nous avions même introduit une question, une motion de la défiance. En 2015, nous avions fait la même chose. Nous avions cette fois-là appelé le premier ministre, à l'époque c'était Matata. Et en 2016, il y avait une motion contre le ministre de la Défense, malheureusement qui n'avait pas été alignée. Vous savez, au niveau du Parlement, lorsqu'on parle de la question de la sécurité, on vous dit que ce sont de questions qui sont, c'est pas moi, qui gardent qui sont de questions de sexe des anges et tout. Mais aujourd'hui, nous avons introduit d'autres initiatives, n'est-ce pas? Nous pensons que dans les jours qui viennent, d'ici la semaine prochaine ou cette semaine, le ministre de la Défense va venir. Mais je voudrais quand même dire une chose.
Très rapidement.
Oui, demande la volonté sérieuse du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a fait plusieurs jours au niveau de Kisangani. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu comment le gouvernement était fortement mobilisé pour la crise du Kasaï. La crise est terminée. Mais pourquoi à Beni, la crise qui date maintenant bientôt 4 ans, on ne veut pas la terminer? Donc il y a, on dirait, des intérêts cachés où on cherche à tout prix à maintenir les gens dans cette situation-là, et chose que nous dénonçons et que nous continuerons à dénoncer.
Monsieur Jean-Edmond Nyoni Bwanakawa, qui est le maire de la ville de Beni, aura peut-être une parole pour répondre à toutes ces interrogations sans réponse jusqu'à présent. Timothée Chaombo Chucha, on écoute pour vous le commentaire de cet auditeur d'Isangi.
Petit Chaombo, député, vous occupez. Pour moi, c'est très intolérable et déplacé. C'est vraiment révoltant ce qui se passe à Beni et dans toute la partie orientale de la RDC. Depuis 2014, plus de 2000 Congolais ont été sauvagement massacrés et plus de 1500 enlevés par les terroristes de la DEF sous la barbe impuissante du gouvernement et de l'ONU. À mon avis, tant que ces tueurs ne font pas l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité, enjoignant à ce pays à lancer des enquêtes pour que les coupables soient châtiés, on ne cessera de décrier la complicité entre l'ONU et le gouvernement congolais dans le plan de balkaniser la RDC. Parmi une multitude de rapports indiquent clairement l'origine des armes et équipements des groupes armés et ADEF, l'ONU et la CPI n'ont jamais condamné le fournisseur, pourtant facile à démasquer.
Timothée Chaombo, excusez-nous déjà pour la qualité de ce son très difficile à écouter, mais l'essentiel, vers la fin, je crois que vous avez saisi, cet auditeur essaye de faire le bilan à sa façon.
Oui, il a fait le bilan que j'ai suivi parfaitement, bien que l'élément sonore n'était pas... Il fallait aussi saluer sa clairvoyance, hein, par rapport à qu'il constate l'incapacité, même l'inertie de la Cour pénale internationale. Parce que là, les crimes qui sont commis sont des crimes contre l'humanité, dont on peut identifier, vous avez les Nations Unies qui sont là, donc on peut identifier les auteurs, et même la responsabilité de l'État congolais. Ça, c'est un autre élément. La complicité entre l'ONU et l'État congolais, j'ai toujours dit, j'ai proposé dans un article publié ici en Belgique, de la dissolution de l'ONU, parce que devient une structure budgétivore, mais qui ne trouve solution à aucun problème. C'est à zéro mètre que les crimes sont en train d'être commis. Je voudrais souligner un dernier élément, c'est que lorsque vous interrogez même des officiers supérieurs à Kinshasa, au niveau de Kinshasa, sur la situation qui se passe au pays et même à l'est du pays, bon, ils disent qu'ils sont au courant. Mais il y a aussi une sorte de commandement parallèle, même au niveau de Kinshasa, qui surveille les vrais officiers congolais, tels que vous ne voyez pas un seul officier qui ose parler, parce que derrière lui, il y a une cachette. C'est cela la vérité. Donc l'État congolais se trouve dans une situation où vous avez des institutions qui fonctionnent, mais aussi un autre commandement obscur, parallèle. Et chaque fois, nos officiers qui étaient au front déploraient cette situation. Et la plupart d'entre ces officiers sont morts, d'autres ont été relevés des fronts au moment où ils avaient la main dessus sur l'ennemi. Donc il y a un problème de trahison, de la complicité entre les présumés ADF et les institutions de l'État à travers le centre de commandement que j'ai pointé le doigt depuis Kinshasa.
Alors,
et donc, comment trouver ce que... Oui.
Timothée Tiaombo, nous approchons vers la fin de notre émission. En 30 secondes, la solution définitive à ce problème pourrait être quoi, selon vous, et de manière très concrète?
La solution est Kinshasa à travers le président Kabila, qui est le premier responsable. La deuxième solution, c'est que les militaires congolais doivent prendre conscience que c'est leurs compatriotes qui sont en train de mourir et qui doivent se lever face à un état chaotique. L'armée a été toujours un outil de retour à la stabilité. Que nos officiers prennent relève et qu'ils tapent dessus la table pour qu'à partir de Kinshasa, ils puissent trouver solution.
Le maire de Beni, Jean-Edmond Nyonyi Bwanakawa, aussi un peu en termes de conclusion, est-ce que l'heure n'est-elle pas finalement venue de nous dire définitivement la vérité dans cette histoire?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais, avant de répondre à votre question, je vais vous rappeler que nous ne sommes pas dans un concours d'éloquence. Je crois, quand vous m'invitez pour que je vienne débattre d'un sujet important comme celui-ci au niveau de votre radio...
Allez-y, c'est votre moment de parler.
C'est pour que je puisse éclairer aussi bien l'opinion nationale qu'internationale. Et alors, quand on pose des questions et que vous soyez là juste pour nous interrompre, je crois que prochainement, j'aurai difficile à pouvoir accepter votre invitation.
Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion, monsieur le maire?
S'il vous plaît, je veux préciser, ceux-là qui disent que le phénomène est IDF, il y a double commandement et tout, je vais leur dire qu'au niveau de l'armée, il y a le principe de l'unité de commandement qui est respecté.
Merci, monsieur le maire de Beni, Jean-Edmond Nyonyi Bwanakawa. En 10 secondes, monsieur le député, Paul Moindo, la solution, vous y croyez?
Oui, moi je crois qu'il est toujours possible, mais le premier responsable, c'est le chef de l'État. Donc je voudrais vraiment appeler à la responsabilité et à la conscience davantage du chef de l'État. Nous attendons de lui des actions concrètes. De deux, la MONUSCO aussi doit cesser d'être observatrice. Nous voudrions mieux qu'elle puisse appliquer la défensive et non pas simplement l'offensive.
Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Guy Maté était à la réalisation. Jean-Noël Mokondo à la technique. Alain Irung et Pelé Kipela ont participé à la préparation de votre émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre aimable attention. Au revoir.